Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de vous retrouver, d'autant que nous recevons une fois de plus cette semaine un être d'une grande gentillesse et qui a façonné à sa manière l'industrie musicale du Québec, que ce soit à titre de musicien, producteur, arrangeur, compositeur ou même réalisateur associé à un grand nombre de projets et d'artistes. Aujourd'hui, toujours actif, il participe à de multiples projets artistiques et donne généreusement de son temps pour encourager et former les artistes de la relève. Michel Robidoux est avec nous. Bienvenue à nouveau.
Ça me fait plaisir.
Artiste de la relève, c'est important, ça
oui,
aussi.
Oui, c'est très important. La relève, c'est notre avenir. C'est aussi important dans les arts que ça l'est, je veux dire, au niveau de l'écologie. Il faut faire attention à nos ressources naturelles et la relève, c'est une ressource naturelle. Justement, cette semaine, on m'a contacté encore pour la énième fois Festival de la chanson de Magog.
Oui.
Et puis, j'ai été associé pendant des années au Festival de la chanson de Granby, dans les années 80, avec Raoul Duguay,
mm-hmm.
comme formateur, pour le stage de formation. Et ça, c'était les finalistes là, qui avaient droit à une semaine avec des gars comme nous autres. Et puis, que de belles expériences! Rencontrer Luc de la Rochelière dans ses premiers moments.
Oui, de voir naître ces étoiles.
Oui, oui.
Parce qu'il y a des noms assez incroyables qui ont surgi de Granby.
Oui.
Ou même du...
Priscilla.
Oui.
Priscilla qui a été la première lauréate qu'on a entendu chanter la semaine dernière sur la chanson des îles.
J'allais dire aussi le Festival de Granby, mais le Festival de Grande-Vallée.
Grande-Vallée, Petite-Vallée.
Petite-Vallée,
oui.
Pardon.
Festival de la chanson en fête Saint-Ambroise.
Oui, au Lac-Saint-Jean.
Au Lac-Saint-Jean, ça, je l'ai fait plusieurs années. Petite-Vallée, je ne l'ai pas fait. Mais ils ont donné, c'est parce que quand Alan m'a contacté pour faire Petite-Vallée, c'était un été où j'avais pas le temps au moment où il y avait besoin de moi. Et puis, je savais qu'il était en train de se tramer quelque chose de spécial à Petite-Vallée, que ceux qui y seraient, ils resteraient pendant un bout, là. Et puis, je suis désolé un petit peu de pas avoir été là dans la première instance, quoique on a fait Petite-Vallée, mais en tant que groupe, nous autres, avec le groupe Les Ours.
Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on sent qu'il y a un engouement pour la chanson. Il y en a toujours eu un, mais c'est de plus en plus présent, probablement parce que les médias aussi sont plus, entre guillemets, exploitants
ouais.
de ces talents.
Ouais.
Quand on regarde des phénomènes comme Star Academy, ces festivals, on ne peut pas tout mettre sur la même échelle.
Non.
Il y a des endroits où on a l'impression qu'on veut créer rapidement des vedettes, mais faire carrière comme artiste dans le domaine de la chanson, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de discipline
ouais.
aussi.
Oui, mais il y a de plus en plus d'encadrement quand même. C'est sûr que ça évolue, hein. Comme on n'est plus à l'époque du vinyle.
Plus du CD, dit-on, c'est le téléchargement maintenant.
Le téléchargement maintenant, justement, j'en entendais parler à Radio-Canada encore aujourd'hui. Ils sont en train d'étudier exactement de quelle façon ils vont faire, parce que ça, c'est fédéral, de quelle façon ils vont régler ça. Parce que c'est notre gagne-pain, hein. Si on peut pas gagner notre vie, on va mourir. On va être obligé de faire d'autres choses dans la vie. Alors, ça se transforme énormément. Moi, je veux dire, quand j'ai appris ce que c'était de former un artiste, c'était avec ma mère, qui était une formatrice, qui était ce qu'on appelle un coach. Maman, chez moi, passait Dominique Michel, Denise Filiatreault à chaque semaine pour se faire coacher par maman, qui, elle, coachait mon père aussi, mais elle coachait des comédiens, des comédiennes aussi.
Et puisque vous parlez de votre maman,
oui,
qui a travaillé étroitement avec Ovila Légaré,
oui,
on va vous faire entendre une pièce, presque une pièce de collection, un enregistrement de 1930. C'est Ovila Légaré qui chante. On va reconnaître un jeune Ovila Légaré, mais on reconnaît quand même son timbre de voix. Une chanson traditionnelle, « Il pleut, bergère ».
Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voici l'éclair qui luit. Entends-tu le tonnerre, il roule en approchant. Prends un abri, bergère, à ma droite en marchant. Je vois notre cabane, et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne, qui vont l'étable ouvrir. Bonsoir, bonsoir, ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Va te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie, mon très petit mouton.
C'est curieux quand on entend ces chansons, n'est-ce pas?
Ben oui, c'est curieux, surtout quand on entend ce grand bonhomme-là. Ben, je dis qu'il était grand, il était vachement costaud, là, Villa, là. C'était pas un petit monsieur, ça, là, quand il rentrait dans une pièce.
Un colosse.
C'était un colosse.
Et même comme acteur.
Ah oui, comme acteur, on l'a vu dans un rôle, le
truc le lion. De lion. Oui, de, je me souviens plus de l'auteur, mais de cette
du
dame.
Non, c'était pas du Bis.
Le nom va sûrement.
En tout cas, bon, peut... Il venait à la maison, et c'était un gars, il adorait maman. Et lui, là, je pense s'il avait pu l'épouser, il l'aurait épousé. Il était amoureux de maman. Il venait souvent à la maison. C'était un sacré blagueur. C'est une présence vraiment joyeuse. C'était un gars qui était tout le temps de bonne humeur. Les émissions de Zizette, moi, là, quand maman avait pas de gardienne, elle m'amenait avec elle. Moi, j'étais très... Moi, qui étais un petit Moses, parce que j'étais un enfant curieux, puis j'aimais ça. J'étais curieux. Je voulais être partout en même temps, ouais, fouiller partout, mm-hmm, tout ça. Eh bien, quand elle m'amenait en studio à CKVL pour l'enregistrement des émissions de ZZ, premièrement, ce qui était merveilleux, c'est qu'il avait un plaisir. Il était mort de rire tout le temps. Il pleurait pendant les enregistrements de ça. Parce que, bon, les textes, souvent, ça appelait des trucs à double sens. Puis Ovila Légaré, c'était un gars qui racontait des histoires, ouais, à peu près, des juteuses, des moins juteuses. Mais il y avait un plaisir fou à travailler ensemble. Et la cerise sur le sundae, c'est que c'était une émission avec bruiteur. Et moi, j'étais fasciné par le bruiteur.
Alors, le monde des sons.
Le monde des sons.
Qui était, dans le fond, c'est le monde de la musique.
Puis c'est le monde de la musique parce qu'il faisait pas juste des sons. Il fallait qu'il joue le thème d'émission, puis il fallait qu'il monte, puis descende des escaliers, puis qu'il fasse jouer des trucs en même temps, puis tout ça. Puis c'était le bruiteur, c'était un magicien. Moi, là, j'allais là, puis je regardais ce gars-là, parce que là, je comprenais, c'était complètement, ouais, démystifié pour moi. Là, c'était plus un truc que j'entendais à la radio, que pour moi, qui avait une certaine réalité. Là, je le voyais, lui, faire monter des marches, briser la vitre, t'sais.
Bref, une enfance féerique.
Ben, en fait, une enfance qui aurait pu me blaser, me dire, bon, c'est ça, il n'y a pas de magie. Non, il y en a de la magie. La magie est là, c'est là qu'elle se fait, la magie. Après ça, c'est lui qui l'écoute. On met tout ça ensemble et là, ça devient magique. Mais moi, c'est là que je pense que j'ai pris le goût à faire les choses plutôt qu'à de les écouter.
Un qui a créé une magie dans le monde de la musique dans les années 50 en allant à Paris se faire découvrir. Nul n'est prophète dans son pays, dit-on.
Ouais.
C'est Félix.
Ouais.
Félix Leclerc. Prière bohémienne, 1951.
À tous les bohémiens de ma rue, qui sont pas musiciens, ni comédiens, ni clowns, ni danseurs, ni chanteurs, ni voyageurs, ni rien, qui vont chaque matin bravement, proprement, dans leur petit manteau, sous leur petit chapeau, gagner en employé le pain quotidien. Qui sourit aux voisins sans en avoir envie, qui ont pris le parti d'espérer, sans jamais voir de l'or dans l'aube ou dans leur poche. Les braves bohémiens sans roulotte ni chien, silencieux fonctionnaires aux yeux fatigués. J'apporte les hommages émus, les espoirs des villes inconnues, l'entrée au paradis perdu par des continents jamais vus. Ce sont eux qui sont les plus forts, qui emportent tout dans la mort.
Sans Félix, la chanson aurait peut-être pris une autre direction, diriez-vous?
Sans Félix, puis Félix, ça, c'en était un qui était dur. Mon père me racontait des trucs par rapport à Félix, parce que Félix et Fernand, ça, c'était des amis, là. Pas d'erreur là-dedans.
Vous avez rencontré déjà Félix?
Ah oui, moi, j'ai rencontré souvent Félix.
Je fais juste une parenthèse, mais est-ce qu'il était le conteur que nous avons connu?
Ah, mon Dieu!
Parce que vous avez dit qu'Ovila Légaré était un grand conteur, Félix tout autant. Mais
Félix, c'était... Oui. Et Félix aimait ça, lui, inventer une histoire sur n'importe quoi. Je veux dire, une femelle écureuil, comment est-ce qu'il dit ça, lui? Il y avait une écureuil chez lui. Moi, je l'ai vu, là. Je l'ai vu, je pense, quelques semaines avant sa mort, moi, chez lui, à l'île d'Orléans. On s'est placoté ça sur le bord de la table comme on est en train de faire. Exactement ça. Sauf que je venais de finir de travailler avec Leonard Cohen. Puis Leonard Cohen m'avait raconté une histoire qui lui était arrivée en Israël. Ça lui était arrivé pour vrai. Puis j'ai raconté cette histoire-là à Félix qui m'a écouté, mais il était suspendu à mes lèvres. Hein. J'ai raconté que Leonard Cohen a pris la dernière guerre qu'il y a eu en Israël. Il a pris le dernier avion qui pouvait atterrir à Tel Aviv. Il s'est dirigé au quartier général. Ça, c'est vrai, là. Leonard, c'est pas un conteur. Il raconte pas de blagues. Leonard, c'est un homme...
Authentique.
Un homme droit authentique. Il est allé au quartier général et il a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Ils lui ont dit « Garde, là, il y a une Jeep, il y a une mitraillette, t'as une guitare. Pars avec la Jeep, la mitraillette, puis ta guitare, puis va réconforter les soldats blessés avec ta poésie puis avec ta musique. » Il est parti avec la Jeep, la mitraillette, sa guitare, puis il est allé faire exactement ça. Alors, je raconte ça à Félix. Là, il n'en revenait pas, là. Alors, lui, puis là, parce que là, pour venir à lui, ce qu'il m'avait raconté avant, parce qu'il me parlait de cette espèce de femelle écureuil qui nourrissait ses petits, et puis elle mangeait dans la mangeoire des oiseaux. Puis, tiens, je la laisse faire parce que. Je la laisse faire parce que, regarde, ses seins sont gonflés de lait. Là. Faut qu'elle se nourrisse. Puis, tu sais, Félix, là, comme, avec sa voix.
Oui, voilà.
Bob, il me la montrait. Puis, elle était là, l'écureuil était justement en train de bouffer la bouffe des oiseaux. Ah, mais Félix était un être absolument...
Et sa façon de la raconter.
Exceptionnel.
On a reçu ici Guy Godin.
Oui, mon Dieu.
Qui était un grand ami de Félix Leclerc aussi. Et qui disait, à un moment donné, quand tu fais de la poésie, faut pas que tu dises frigidaire, faut que tu dises frigidaire. Ouais, il
oui.
faut que ça se sente.
Oui, dans forêt, avec les loups. Mais, alors, Guy Godin, il a été, lui, il a eu son baptême d'émission de radio avec Zézette.
C'est vrai?
Le Guy Godin, alors, peut-on imaginer Guy Godin qui est invité, comme artiste invité, à jouer un personnage passager de passage dans une émission comme Zézette avec une gang de farfelus comme ça? Lui, il était sorti complètement sur une espèce de nuage de l'école de théâtre ou je sais pas quoi.
Mais un être de profondeur, oui. Guy, un être authentique aussi.
Absolument. Mais quel choc que ça a été pour lui. Puis lui, je lui rappelle ça. Il se rappelle encore de ça quand je le rencontre. J'en pleure encore parce que c'était tellement bizarre pour ce personnage pur-là qui sortait du conservatoire de se retrouver avec une gang de farfelus zézettes, tu sais, un petit peu populaire. Là, tu sais, là.
Alors, de Guy Godin à Guylaine Guy.
À Guylaine Guy.
Voici un certain sourire.
Quand la radio joue cet air-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents? Les yeux mi-clos, je le revois. Jalouse du secret de certains sourires, je l'aime tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir, oui, même à mourir pour un certain sourire. Mais il gardait ce certain sourire. Longtemps après, mon cœur a compris que jamais, non, jamais son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, toujours mal d'avoir aimé que certains sourires. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir, oui, même à mourir pour un certain sourire.
C'était un peu pour le jeu de mots, Guy Godin, Guylaine Guy, mais ça rappelle aussi qu'à une certaine époque, on adaptait rapidement des chansons américaines.
Oui.
Ça, c'était la version de A Certain Smile,
oui.
En 1959. Une époque qui, je repose peut-être la question, est-ce que la chanson sans Félix Leclerc, la chanson québécoise aurait pris une autre tendance?
Ça serait arrivé éventuellement. Je veux dire, c'est grâce à Félix, c'est arrivé à ce moment-là. Et à Fernand Robidoux aussi. Les deux, moi, je dis, ce sont vraiment les deux pionniers de la chanson d'expression française du Québec, de la chanson des auteurs, compositeurs, interprètes d'ici.
Fier de votre père.
Ah, mon Dieu, parce que mon père, il a tenu ses culottes. Il y a un moment donné, il a dit, Raymond Lévesque est arrivé avec une pile de chansons à la maison. Maman, qui avait un pif extraordinaire pour reconnaître le talent, a dit à Fernand, ce gars-là écrit des chansons. Attention, tu vas voir, il écrit de très bonnes chansons, parce que maman savait lire et écrire la musique. Elle regardait une chanson, elle savait si c'était une bonne chanson ou non. Et puis, Alors, Fernand a dit à sa compagnie RCA Victor, je veux chanter des auteurs, compositeurs d'ici. Ils ont dit non. Pourquoi? On a tous nos hits, là, nos succès, nos méga succès là, chez nos voisins du Sud. On a juste à les traduire. Pourquoi se baderie de... Et puis, il a dit, « Ouais, mais je vais rompre mon contrat si vous ne voulez pas m'accorder ce privilège-là. » Mais on dit, « OK. » Il y a eu une offre de London. Et puis, de London, il a dit, « Tu veux chanter des auteurs-compositeurs québécois? » Ah ouais. Il est parti avec une pile de chansons enregistrées à Londres avec grand orchestre. C'est-tu assez ironique?
Incroyable.
C'est ironique parce qu'il part avec des chansons...
Il fallait y croire.
D'auteurs-compositeurs québécois pour aller enregistrer à Londres. C'est vraiment là, comme
spécial. Et c'est pour ça que je disais que l'adage « Nul n'est prophète dans son pays » au plan de la chanson est... C'est avéré vrai. Félix Leclerc a dû aller à Paris pour faire reconnaître son talent parce qu'ici, on ne reconnaissait pas l'envergure du personnage qu'il allait devenir.
Ah, ici, il faisait faire le ménage à Radio-Canada. Je dis, c'est sûr et certain. Bon. Et Félix a été d'une grande générosité avec Fernand. D'ailleurs, ce sont les deux premiers à être montés sur les planches de l'Olympia à Paris. Félix comme auteur-compositeur-interprète et mon père comme interprète d'auteur-compositeur québécois.
Est-ce que les deux hommes se ressemblaient?
Les deux hommes, non. Les deux hommes, non. Ne se ressemblaient pas, mais les deux hommes s'aimaient beaucoup. Les deux hommes se respectaient énormément.
Quelle était la principale différence entre Félix et Fernand Robidoux?
Je pense que c'était au niveau de c'est la création, carrément. Mon père était capable d'écrire, c'est-à-dire d'écrire des textes, mais pas la musique. Donc, il pouvait pas nécessairement être auteur-compositeur et... Je pense que c'était une grande liberté pour lui de pouvoir choisir exactement le matériel qu'il voulait interpréter plutôt que de le faire lui-même.
Mais par ailleurs, s'il y avait un point de convergence, c'est sans nul doute la fierté qui habitait chacun des deux hommes.
C'est la langue. C'est la langue qui primait avant tout.
On termine cette première demi-heure avec une artiste que vous aimez bien, Marc Homé.
Oui.
Une chanson, Tapis volant. Là, on est dans un autre univers complètement, celui du nouvel âge.
Oui, puis nouvel âge, mais moi, je dirais plus musique du monde. Et puis, le texte est de Pierre Letourneau.
7 heures, on se lève, raconte-moi tes rêves.